Vous avez choisi la fréquence de la Radio Moto, vous avez raison.
Radio Moto Oicha, les informations. Jackson Siwulia Mondié à la présentation.
Vous écoutez Radio Moto Oicha à Kassindi, comme à Beni. Bonsoir, bienvenue à cette édition. Voici rapidement les sommaires. Trois grands collaborateurs de rebelles ougandais ADF arrêtés à Kassindi, parmi eux deux femmes. L'armée parle des réseaux à court de démantèlement. Par ailleurs, à Nitouri, cinq patients des mêmes combattants ADF ont été détruits par les FARDC. Trois mois de paralysie d'activité scolaire dans les Grouma, Banane et Kayinama au nord du territoire de Bénin. La société civile tire la sonnette d'alarme à quelques jours du début des épreuves préliminaires d'examen d'État. Plus de 10 écoles sont concernées. Le Sénat congolais livre Matata Ponyo à la justice. Notre correspondant à Kinshasa, Robert Songo, nous fait la suite de cette affaire après la délibération du bureau Lukwebo hier, en début d'une longue bataille judiciaire, à la fois judiciaire et politique. Est-ce qui vous éclabousse par des révélations troublantes? C'est le deuxième épisode de notre dossier sur Esco à suivre dans notre dossier du jour vers la fin de cette édition. Voilà pour le sommaire. Je venais de vous l'annoncer au sommaire. Trois grands collaborateurs de rebelles ougandais ADF, dont deux femmes, ont été arrêtés le lundi 5 juillet 2021 au poste frontalier de Kassindi. Joli coup de filet réalisé par les services de sécurité. D'après le lieutenant Anthony Mwalusha et porte-parole des opérations Sokola 1, c'est dans le cadre des opérations de démantèlement des collaborateurs ADF dans la zone de Béni. C'est confié ce mardi à la presse à Béni. Il parle des réseaux à court de démantèlement.
Il s'agit d'un réseau que nos services de renseignement ont démantelé dans le cadre des opérations de démantèlement des collaborateurs ADF. Nous avons arrêté hier trois collaborateurs, parmi eux deux femmes et un homme. C'était à Kassindi, dans la cité frontalière de Kassindi. Nous les avons remis entre les mains de services de renseignement pour plus de détails sur les opérations. Voilà, ce sont des compatriotes non normaux, mais qui travaillaient en collaboration avec Ennemi, qui les donnait des appuis logistiques et parfois des transactions avec leur téléphone. Nous avons récupéré les numéros de transactions. Nous avons eu des informations sur leur collaboration, leur mode de collaboration. Voilà. La population de Béni collabore bien avec les forces de l'ordre, bien que au-delà de cette collaboration, il y a quand même certains parmi nos compatriotes qui se retrouvent, n'est-ce pas, dans ces mafias des ADF et qui ne veulent pas que ça finisse. Donc ils continuent toujours et à décourager ceux qui collaborent avec l'armée et aussi à continuer à donner main forte à l'ennemi.
Lieutenant Anthony Mwalusha est porte-parole des opérations Sokola 1. Par ailleurs, dans l'Ituri, cinq bastions des rebelles ougandais ADF situés à l'est de la route nationale numéro 4 axe commande à Béni, aussi du territoire d'Irumu, ont été complètement détruits par des bombardements des hélicoptères de combat des FARDC. L'opération a été réalisée le lundi 5 juillet dernier. L'information vient du porte-parole des FARDC dans l'Ituri. Ces pilonnages des camps ennemis ont duré environ 5 heures, indique les porte-parole des FARDC, avant de préciser que les opérations se poursuivent au sol avec les éléments commando pour anéantir ces heures la loi et imposer la paix à Nitouri. Le lieutenant Jules Ngongo Tikoudi, dans ses propos recueillis par notre correspondant à Bounia, Nixon Manzekele.
Nous vous informons que depuis l'installation du QG du secteur opérationnel Ituri, où les commandants secteurs, le général de brigade Maloba Robert, est sur place à Komanda, les ADEF sont pris en tenaille et leurs collaborateurs. Nous vous annonçons que hier, les forces armées ont détruit plusieurs bastions des ADEF et leurs collaborateurs dans cette forêt, précisément à Zunguluka, à Mukulu Mukulu et Moina et Mbelu 2. Les forces armées ont détruit ces lieux considérés comme le haut fief de ces terroristes qui constituaient également leur retranchement lorsqu'on les frappe. Et c'est de là où ils se cachent. Et de là, les forces armées ont pilonné avec les hélicos du combat et les dégâts sont énormes. Pour le moment, les forces armées continuent les opérations au sol pour consolider de plus en plus et protéger notre population. Il est temps pour nous à appeler à notre population de mettre toute leur confiance aux forces armées, mais aussi de collaborer avec les forces armées, parce qu'en ce moment, l'ennemi serait qu'en débandade et nous sommes en train de le poursuivre. Et les opérations vont continuer jusqu'à ce que les derniers ADEF sera mis hors d'état de nuire. Voilà le fait final recherché. Pour donner la paix et la tranquillité, et rappelons que c'est sur ordre du gouverneur militaire de province, le lieutenant général Uboyaka Chamadjoni, que les commandants sectaires s'est installé à Komanda pour coordonner ces opérations qui donnent déjà le fruit escompté.
Gilles Ngongo Tikudi, porte-parole des FARDC, Anituri, propos recueillis par Nixon Manzekele. Revenons ici en territoire de Beni. On en sait un peu plus sur l'identité de ceux qui ont attaqué une position des FARDC au quartier Mabasele, précisément sur la route Ouitcha-Maleki à l'ouest d'Ouitcha. D'après l'administrateur militaire adjoint du territoire de Beni, il s'agit bel et bien des miliciens Maïmaï, mais la milice à laquelle ils appartiennent n'est pas encore bien identifiée. D'autres précisions avec Louis Girouang.
Ce n'est pas une première attaque menée dans ces quartiers par des combattants Maïmaï contre une position de l'armée. Mais difficile d'identifier la milice auteur des attaques. Souvent accusés de béquilles et des rebelles ADEF, ces miliciens ont encore pris pour cible une position militaire située à l'ouest de la commune d'Ouitcha vers 19h45 du lundi 5 juillet 2021. D'après une source contactée ce mardi à la police, le militaire a vite riposté à cette attaque. Bilan, des miliciens capturés, parmi eux, une jeune fille. Ces deux jeunes capturés sont entre les mains des services de sécurité pour les renseignements. Ils pourront certainement apporter toutes les précisions sur leur identité, motivation, zone de localisation et les objectifs qu'ils poursuivent. La soirée d'Ilanti, lors de cette attaque, des coups de balles entendus ont été à la base d'une psychose généralisée. Certains habitants ont vidé leur maison pour se mettre à l'abri. Les uns ont passé nuit à la Belle Étoile, d'autres ont été hébergés dans des familles d'accueil dans les quartiers estimés sécurisés.
Autre chapitre maintenant, nouvelle édition en sommaire. Il n'y a pas d'activité scolaire sur toute l'étendue du groupement Banane et Kainama depuis exactement 3 mois, soit un trimestre entier. C'est en tout cas l'alerte adressée ce mardi 6 juillet 2021 aux autorités par l'association civile locale du groupement Banane et Kainama situé au nord du territoire de Beni. Selon ce président Jonas Bin Kasumba, c'est depuis le 27 mars dernier que les écoles ont fermé leurs portes à la suite de l'activisme des rebelles ougandais ADF. À quelques heures du début de la session préliminaire des examens d'État, la société civile s'inquiète du fait que rien ne semble bouger. Ce qui est curieux, c'est qu'une école de Kainama n'a été, aucune école de Kainama n'a été délocalisée pour les agglomérations supposées sécurisées. Jonas Bin Kasumba a été joint au téléphone par Stanley Mwindo.
Depuis le 27 mars de l'année en cours, pendant l'incursion derrière de l'ennemi ADEF dans le groupement Banane de Kainama, il existe les cours là-bas. Donc, que ce soit les écoles primaires, les écoles secondaires, toutes ne sont plus fonctionnelles. Les centres d'examen d'État, de Boga, partout là-bas, il n'y a pas d'écoles. Donc, nous n'espérons pas vraiment une passation d'examen d'État dans notre entité. À présent, je ne dis pas aucun rapport sur une école qui serait délocalisée de Kainama, soit une Kairingeti ou bien à Ouitcha, vraiment. Une école de Kainama est en train de fonctionner ailleurs. Je ne veux pas, messieurs les journalistes, c'est un sentiment de déception que je vais exprimer. Voir une grande entité comme notre groupement passer une année sans aucun examen, donc nous supposons que ça sera peut-être une année blanche aussi du groupement Banane de Kainama.
Notons que le groupement Banane de Kainama dans le secteur de Benimbaou a une dizaine d'écoles, dont 4 secondaires. Un centre d'examen d'État y a d'ailleurs été créé depuis quelques années afin d'épargner les finalistes du coin de leur voyage pour Ouitcha ou ailleurs où s'effectuait jadis l'examen. Politique, je le disais au sommaire, autorisation des poursuites judiciaires contre Matata Ponyo par le Sénat. La décision du Sénat suscite des réactions dans l'opinion publique congolaise. Les sénateurs ont donné leur autorisation le lundi 5 juillet. C'était après que le bureau de cette chambre du Parlement ait attendu l'ex-premier ministre congolais. Robert Tsongo revient sur cette affaire qui n'est que début.
La nouvelle est tombée dès la soirée de ce lundi 5 juillet. Elle est contenue dans une correspondance que le président du Sénat, Modeste Batulukwebo, a rendue publique ce même lundi. Dû avoir ici les explications du sénateur Matata Ponyo avant de prendre la décision de lever ses immunités. Signalons que cette décision intervient après que le procureur général, proche de la Cour constitutionnelle, a saisi le bureau du Sénat demandant cette levée d'immunité. Dans ses réquisitoires, le procureur accuse l'ancien premier ministre de détournement de fonds destinés au paiement de l'indemnisation des personnes physiques ou morales victimes de biens aéranisés. Cette levée des immunités de Matata Ponyo suscite des réactions de l'opinion publique. Pour certains, Matata Ponyo est victime d'acharnement politique, étant donné que ses différentes procédures judiciaires contre l'ancien premier ministre se succèdent dans une période courte. Certains vont jusqu'à penser que la justice cherche à éliminer Matata Ponyo des échéances électorales futures. C'est le cas de cet homme.
On sent un peu de l'émotion. Moi, je ne veux pas utiliser l'expression acharnement, mais vous savez que le dossier de départ, c'était le dossier Bukangalonzo. Maintenant, on quitte le dossier Bukangalonzo. On va dans un autre dossier. Moi, je m'imagine, si le bureau avait encore refusé d'élever les immunités, ben finalement, je crois que tous les actes que Matata Ponyo avait posés pendant qu'il était premier ministre, il y allait y avoir un dossier judiciaire qui allait naître. Donc, ça ne donne pas une bonne impression de notre justice. Je crois que les juges vont corriger.
D'autres, par contre, estiment que le sénateur Matata Ponyo mérite de se présenter devant la justice pour justifier sa gouvernance comme premier ministre. Il revient à la justice d'innocenté et présumé coupable, lance cet autre habitant.
Comme il a beaucoup d'arguments, c'est un professeur d'université, c'est un économiste, il va prouver devant la justice qu'il n'a rien fait, et c'est simplement après qu'il sera blanchi, et puis à ce moment-là, il aura la fierté de dire que toutes les accusations qu'on a portées contre moi n'ont rien porté, effectivement je suis innocent, donc je suis un bon citoyen de la cité.
Signalons que c'est le troisième réquisitoire contre Matata Ponyo dans l'espace de moins de 3 mois. Les deux premiers rejetés par le sénateur concernent les dossiers du parc agro-industriel de Bukangalonzo. J'interviens depuis Kinshasa, Robert Tsongo pour la radio Moto Itcha.
Le grand angle.
C'est notre dossier du jour.
Du lundi au vendredi, dans nos journaux du soir, de la nuit et de la mi-journée. La société Esco qui vous éclaboussée par de nouvelles révélations du journal Les Coulisses, elle est accusée de blanchiment des capitaux et financement du terrorisme à Bénin. Conséquence, ces deux comptes bancaires logés respectivement à la Rao Bank et à Equity Bank, l'ancienne BCDC, ont été bloqués à vue de l'ouverture d'une enquête sur les transferts illicites présumés d'argent en destination de l'Ouganda. Mais l'administrateur gérant de la société Esco Kivu à Beni relève des contre-vérités dans l'enquête du journaliste Nikes. C'est la suite de notre dossier sur cette affaire Esco Kivu que je vous propose d'écouter.
C'est une enquête accablante qui fait parler d'elle. Le journaliste Nikes Kibelbel Oka, responsable du journal Les Coulisses, se réfère à la réquisition des formations que le procureur général près le tribunal de grande instance de Beni adresse à deux banques commerciales à Beni, à savoir la Rao Bank et Equity Bank, ancienne BCDC. Dans cette réquisition, il leur demande de surseoir toute transaction ou opération de transfert des devises d'Esco Kivu. Motif, blanchiment des capitaux et financement du terrorisme, écrit le journaliste. Contacté ce mardi 6 juillet par Radio Moto Itcha, M. Paluku Matou Mojak, administrateur de la société Esco Kivu à Beni, confirme la suspension de la transaction sur les comptes de sa société, mais il ne les dit pas à des termes identiques. Pour lui, il ne s'agit pas de blocage des comptes, mais plutôt de suspension des transactions.
Ça, il n'avait pas bloqué les comptes. Donc, il avait tout simplement demandé aux banques de surseoir les transferts de l'argent, de les fournir ou par voie bancaire vers le Ouganda, qui est un partenaire qui nous permet d'avoir l'échange, qui nous permet d'avoir l'échange de la monnaie qui est utilisée au niveau de la chefferie de Watalinga sur le territoire congolais. Il y a les cacao. Donc c'est seulement ça.
En outre, dans ces enquêtes, le procureur indique que durant la période allant de 2017 à 2020, les responsables de la société Esco, avec la complicité de deux banques commerciales précitées, auraient transféré par contrebande une grosse somme d'argent estimée à plus ou moins 25 millions de dollars américains à la société sœur Esco Uganda, et ce pour acheter le cacao congolais au bénéfice de l'Ouganda. Des sommes colossales d'argent qui, d'après l'enquête du journal Les Coulisses, finance l'achat illicite du cacao dans les Rouenzori, zone sous contrôle des groupes armés négatifs. Sur ce point-là, le numéro 1 de Esko Kivuabe n'y parle d'un acharnement.
D'abord, vous allez comprendre que ce journal-là a une sorte d'acharnement contre Esko Kivu, comme c'est le cas de l'ONAPAC. Donc ce sont des alliés à cette sorte. Parce qu'à Beni, donc dans les états de Beni, Mamata, Irumu et Lubero, il n'y a pas été exportateur Esko Kivu. Il y en a beaucoup. Et donc, dire que c'est Esko Kivu qui a fait le cacao à Beni, je pense que c'est tromper l'opinion. C'est du mensonge. La vérité, c'est que Esko Kivu achète le cacao dans les milieux qui sont sécurisés par l'État congolais, les forces armées et la RDC. Et lorsqu'il y a une attaque contre une localité quelconque, tous nos agents fouillent avec la population.
Financement du terrorisme ou pas, l'affaire est entre les mains du Service national des renseignements financiers, le CNRF, une affaire qui compromet déjà Esko Kivu, mais son administrateur souhaite laisser le temps au temps et éviter trop de commentaires.
Moi, je pense que pour le moment, ce n'est pas le moment d'en parler à la radio. Il faut plutôt attendre que le travail qui est en train d'être fait au niveau de la CNRF pour trouver la destination de ces fonds-là soit fait. Donc, il y a des analyses, des pièces qu'on nous a demandées. Lorsque le travail sera terminé, la CNRF pourra nous dire quoi.
C'est donc le début de l'enfeuillette judiciaire. Sur le terrain, la société a suspendu toutes ses activités, achat et exportation de cacao, quinquina et papaïne à Beni. Et notre dossier, cette fois-ci d'ordre fiscal, oppose la même société à l'Office national des produits agricoles au Congo. On n'a pas qu'à sigle.
Le sport fait partie de nous. Nous le vivons, nous l'appliquons. Nous l'aimons.
Serge Tsongo, bonsoir.
Bonsoir, Jason Siboula Mwenge. Bonsoir à tous les amis de sport.
Serge Tsongo, c'est Reka qui nous parle du sport avec d'abord ses premiers titres de ce journal. Un nouveau feuilleton dans le football congolais. L'AS Vita Club dit n'avoir jamais été notifié sur les rejets de ce dernier recours introduit à la FECOFA pour contester Don Bosco dans l'affaire Matutala.
Exactement,
Matutala, c'est ça le nom, je crois.
C'est le joueur Matutala, voilà.
Effectivement.
Exactement, l'AS Vita Club dit n'avoir jamais été notifié sur les rejets de ce dossier, de ce dernier recours introduit à la FECOFA pour contester l'évocation du CS Don Bosco dans l'affaire Zao Matutala. Le club de la capitale révèle avoir eu l'information sur les réseaux sociaux, apprenant en même temps le titre décerné au TP Mazembe de Lubumbashi et son inscription par la FECOFA à la prochaine Coupe de la CAF. En réaction, l'AS Vita Club exige la FECOFA une notification dans les prochaines 48 heures avec en annexe le PV de la réunion des membres de la commission ad hoc le jour d'avant le verdict final rendu par la FECOFA, lequel avait rejeté le recours des Dauphins Noirs pour, au passage, sacrer le TP Mazembe. Décidément, l'AS Vita Club n'entend pas rendre ses armes dans ce dossier. Selon les informations des sources proches de Moscovite, le club a déjà saisi le tribunal arbitral des sports en fait d'être remis dans ses droits. Démarche pour le moment désespérée après toutes les batailles perdues en interne.
Marché des transferts, on en parle dans cette édition. Les deux faceurs congolais, Juma Chabani, quittent l'AS Vita Club de Kinshasa pour Young Africa de la Tanzanie.
Voilà, il s'agit de l'international congolais Juma Chabani, jusqu'ici défenseur de l'AS Vita Club de Kinshasa, parvenu à un accord avec le club tanzanien de Young Africa. Le transfert du joueur est bouclé. Il a paraffé ce mardi 6 juillet 2021 un contrat de 3 saisons. Juma Chabani quitte donc l'AS Vita Club qu'il a enrôlé en 2017 à provenance du FC Renaissance. Un nouveau challenge dans la carrière de celui qui aura été capitaine de Moscovite au cours de ces derniers mois et un des joueurs très importants des dispositifs de Flora Ibenge. À Young Africa, Juma retrouvera ses anciens coéquipiers Twisila Rosein et Serge Mukoko Tonombe. Transféré au club tanzanien en 2020, il aura surtout la possibilité de jouer la Champions League de la CAF car Young réalise actuellement une bonne saison, occupant la deuxième place derrière le leader qui est Simba SC de la Tanzanie.
Vos auditeurs amoureux du sport seront une fois de plus devant les écrans ce soir. Eh bien, ce sont les matchs de demi-finale de l'Euro 2021 qui débutent ce soir. C'est mardi 6 juillet au stade de Wembley. Je ne sais pas si j'ai bien lu.
En tout cas, c'est le stade de Wembley, c'est un stade de... qui se retrouve en Angleterre. La première des mi-finales de l'Euro 2021 qui va opposer l'Italie à l'Espagne se joue ce mardi 6 juillet 2021 depuis 21h de l'Est de la RDC au stade de Wembley, comme vous l'avez dit. Par ailleurs, victoire de la Belgique 2-1, l'Italie qui réalise un Euro 2021 très convaincant affronte l'Espagne pour une place finale. Les Espagnols, plus en difficulté lors de la phase de groupe, ont dû s'arracher contre la Suisse 3-3, temps réglementaire, puis 3-1 au tir au but pour obtenir leur billet pour les demi-finales. Le vainqueur de ce match retrouvera en finale le vainqueur de l'autre demi-finale qui opposera Angleterre au Danemark et le match final se jouera le dimanche prochain au même stade de Wembley en Angleterre.
Page de sport complète, signée et présentée dans ce studio par Serge Tsongo. Serge Tsongo, bonne soirée, merci beaucoup.
Merci également à vous, Jason Seboula Mwenge, merci aussi à tous les auditeurs ce soir.
Madame, messieurs, le journal s'est complètement terminé ce soir. Au nom de toute la rédaction, je vous souhaite de passer une excellente soirée. Merci à Oscar Kassandé pour la prise de son et la mise en onde. Seboula Mwenge Jackson, c'était moi à la présentation.